Le magazine des Nations Unies.
À la une de ce magazine, les réactions face à la situation qui prévaut dans le Nord Kivu. Dans quelques instants, vous suivrez le chef d'état-major de l'armée nationale, mais aussi le numéro 1 de la MONUSCO. L'actualité, c'est aussi le verdict du procès Thomas Lubanga rendu ce mardi par la CPI. L'ancien chef de guerre est condamné à 14 ans de prison, une sentence qui suscite des réactions en Ituri où il avait commis ses crimes. Le 11 juillet dernier, Le Monde a célébré la journée internationale de la population. Avec notre invité, nous parlerons du thème retenu au niveau national à l'occasion. Le chargé du programme de planning familial au Fonds des Nations Unies pour la population répondra aux questions de Honoré Missinga. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci d'écouter ce nouveau numéro de Magazine des Nations Unies. L'actualité dominante cette semaine nous ramène une fois de plus à l'est du pays. Les forces armées de la RDC sont confiantes et déterminées quant aux opérations menées contre les mutins du M23 sur terrain. C'est le chef d'état-major général des FRDC qui l'a déclaré ce mardi à Goma. Le général Didier Toumba, qui séjourne depuis samedi à Goma, invite la population à continuer à faire confiance à son armée. Pour le général Toumba, en dépit de quelques difficultés de parcours, les FRDC se comportent bien aujourd'hui et restent déterminés. On l'écoute au micro de Radio Kapi.
Globalement, nous nous menons plutôt victorieusement les opérations. Nous pouvons avoir quelques petits problèmes de parcours. Ce serait très malhonnête de dire que lorsqu'on mène une opération militaire de grande envergure, qu'il n'y ait pas quelque part une troupe qui recule par rapport à l'ennemi et vice-versa. On insiste peut-être sur quelques petits problèmes que l'un ou l'autre bataillon a eu du côté de Bunagana, de Kamugenga ou de Runyoni, mais on oublie que le FRDC, pour ne parler que de cette histoire des mutins, sont en train de démanteler les mutins, parce que non seulement il y a les mutins, mais il y a leurs forces supplétives qui jouaient le rôle dans la cancérisation de l'espace sécuritaire au nord et au sud Kivu. Mais globalement, les opérations ont été plutôt très grandes victoires de la part des FRDC. Que la population reste tranquille, qu'elle fasse confiance à son armée. C'est la seule armée qu'elle a, de toute façon, cette armée-là, et elle fait du travail.
Toujours en rapport avec la situation dans l'est du pays, la MONUSCO demande au Rwanda de cesser de soutenir le M23. Dans une conférence de presse mardi dernier à Kinshasa, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC indique qu'il existe des indices sur le terrain qui montrent que le M23 reçoit un soutien de l'extérieur. Et cela n'est pas acceptable d'après Roger Miss. Ces propos sont recueillis par Ben Kabamba.
Il y a beaucoup d'informations d'un soutien venant et une implication du Rwanda. C'est évident que c'est une situation inacceptable et il faut arrêter immédiatement. Nous voyons des indices des autres choses. Je peux citer par exemple des tenues qui sont un petit peu différentes de la tenue de la FRDC, c'est-à-dire en couleur qui n'est pas exactement la même, des bottes ou autre chose. Donc l'équipement qui ne caractérise pas l'équipement normalement porté par les forces de la FRDC. Nous avons eu des contacts de nous-mêmes avec quelques-uns des soldats qui parlent apparemment purement l'anglais, en préférence du français. Nous prenons note aussi d'une différence significative des tactiques relativement sophistiquées, y compris par exemple des attaques par nuit et autres actions militaires qui ne sont pas normalement caractéristiques des actions de la FRDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La MONUSCO va installer bientôt un bureau de consultation gratuite pour les victimes des violences sexuelles à Kinshasa. Que veut dire exactement bureau de consultation gratuite? Je vous laisse découvrir la réponse dans ce décryptage que fait la coordonnatrice du programme national d'accès à la justice pour les victimes des violences sexuelles au bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme de la MONUSCO, Madame Ndeyande Kané, s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Madame Yande Kané, bonjour.
Bonjour.
Madame, qu'est-ce que c'est un bureau de consultation gratuite?
Un bureau de consultation gratuite, c'est un bureau géré par un barreau. En l'occurrence, le barreau de Matete a mis en place par les les financements du Bureau conjoint des droits de l'homme, bureau de consultation gratuite chargé d'accompagner les victimes de violences sexuelles.
Et alors, quelle est la différence entre les cliniques juridiques pour les violences sexuelles qui existaient déjà, selon vous, et les bureaux de consultation gratuite?
Il n'y a pas une très grande différence. Les cliniques juridiques sont gérées par les ONG. Au sein de ces ONG, il y a des avocats qui suivent les victimes des violences sexuelles. Ces mêmes avocats peuvent se retrouver aussi au sein du barreau et peuvent travailler avec le bureau de consultation gratuite. L'élément nouveau, c'est que un bureau de consultation gratuite est géré par le bâtonnier.
Est-ce que le bureau de consultation gratuite avec les cliniques juridiques peuvent avoir un même bâtiment, un même local?
Non.
C'est différent?
C'est différent. Nous avons voulu décentraliser un tout petit peu. Parce que si vous voyez bien, le barreau de Matete est situé à Limete. Alors que le bureau de consultation gratuite est situé à Massina.
Comment ce bureau de consultation gratuite va assister les victimes des violences sexuelles, par exemple?
Parfois, la population, les communautés locales n'ont pas accès directement à l'information. Ça fait qu'il y a beaucoup de cas de violences sexuelles qui nous parviennent directement au bureau. Donc, quand nous recevons les familles des victimes, ou bien les victimes elles-mêmes, ou bien les témoins, ils nous donnent l'information et on les oriente directement vers ce bureau de consultation gratuite pour qu'ils puissent bénéficier d'une assistance judiciaire. Ou bien les victimes qui sont déjà informées de l'implantation de ce bureau de consultation gratuite vont directement voir les avocats qui travaillent dans ce bureau de consultation gratuite pour rapporter un cas de violence sexuelle.
Et quand est-ce qu'interviennent les cliniques juridiques?
Les cliniques juridiques, c'est la même chose. Donc, ils jouent le même rôle que les bureaux de consultation gratuite.
Ok. L'une des particularités de ces bureaux de consultation gratuite, ou même des cliniques juridiques, c'est l'indemnisation des victimes, madame. Et quelle est la nature de cette indemnisation?
Il est vrai que le problème d'indemnisation se situe à deux niveaux. Il y a les réparations pénales et les réparations civiles. Pénal, ça veut dire que il faut que l'auteur présumé soit déjà arrêté, poursuivi, jugé, condamné selon la loi. Là, au moins, nous savons que la justice a fait son travail. Maintenant, la réparation civile se situe au niveau des dommages et intérêts. Donc, il faut que la victime reçoive des indemnisations. C'est vrai que l'argent ou bien la réparation en nature ne pourra jamais apporter une solution au dommage qui a été causé, mais quand même, ça rassure un tout petit peu.
Et qui doit payer l'indemnisation?
L'indemnisation, la plupart du temps, l'auteur est condamné à une solidium avec l'État.
Et voilà. Si l'auteur n'est pas connu, par exemple, qu'est-ce qu'on fait?
Là, ça pose problème. Et malheureusement, nous rencontrons beaucoup de cas où les auteurs ne sont pas connus. Et c'est une grosse difficulté d'ailleurs et un défi à relever. Mais si l'auteur est connu, on peut poursuivre. Si l'auteur est solvable, il faut quand même qu'il y ait l'exécution des décisions judiciaires.
Mais madame, vous savez qu'il y a des barrières culturelles chez nous. Qu'est-ce que vous diriez de l'inceste dans un cadre de violences sexuelles?
Oui, mais moi je me dis que dans aucune culture on a dit qu'il faut violer, il faut commettre des violences sexuelles.
Mais ça
arrive. Ce sont ces barrières.
Ça arrive, madame.
Qu'il faut, oui, ça arrive, je le reconnais. Mais d'ailleurs, on se bat pour quand même bannir tout cela. On se bat aussi pour briser le silence. Parce que si vous voyez que l'inceste continue, c'est parce qu'il y a l'impunité qui est autour de cela. Donc, pour lutter contre l'impunité liée à ces violences, moi je pense qu'il y a quelques défis qu'il faut surmonter. C'est pas facile, mais je pense qu'on peut y arriver.
Chez nous, ici en Afrique, les femmes se réservent beaucoup. Comment les pousser avant tout à réclamer leurs droits et à être indemnisées?
Justement, la plupart des victimes se réservent et ne veulent pas en parler à cause des coutumes et mœurs qui pèsent sur le dos de ces gens. Donc, je pense que en faisant des sensibilisations auprès des communautés locales, auprès des victimes, et en mettant sur la table le rôle que le bureau de consultation gratuit joue, ou bien la clinique juridique joue, je pense qu'on mettrait plus en confiance ces victimes.
Madame, lorsqu'il y a un règlement à l'amiable, les cliniques juridiques ou même le bureau de consultation gratuite auront des raisons d'être.
Justement, ça c'est le rôle des cliniques juridiques et bureaux de consultation gratuite. Dans les tâches qu'ils doivent mener, il y a une partie qui s'appelle sensibilisation de la communauté locale. Des potentielles victimes de violences sexuelles et les victimes de violences sexuelles qui existent déjà. C'est pour leur dire, écoutez, n'acceptez plus les arrangements à l'amiable.
Prenons les cas des intouchables, entre guillemets, qui sont des auteurs des violences sexuelles. Comment va s'exécuter l'indemnisation parmi ces gens-là?
Mais je pense que si ces intouchables arrivent jusqu'au procès, ils ont été jugés et condamnés pour violences sexuelles. S'ils sont solvables, il faut qu'ils payent ces indemnités et ces dommages et intérêts. Voilà. On peut vendre leurs biens et indemniser les victimes. Il faut le mettre en œuvre. C'est pourquoi je dis que c'est la partie la plus difficile dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, parce que nous sommes habitués au jugement et ça s'arrête là. Mais je pense qu'on devrait aller plus loin en exécutant les décisions de justice.
Est-ce qu'il y a de cliniques juridiques pour les violences sexuelles ou même des bureaux de consultation à travers la République démocratique du Congo?
Oui, on a...
Est-ce que ça fonctionne?
Oui, ça fonctionne. Nous avons au total 27 cliniques juridiques et bureaux de consultation gratuites. À Lubumbashi, nous avons commencé par le nord et le sud Kivu.
Et là, ça marche et vous avez des bons résultats?
Ça marche. On voit les résultats, mais il reste beaucoup à faire.
Oui, il reste beaucoup à faire, madame. Et nous vous remercions sincèrement d'être venue à Radio Okapi.
Merci.
Et les nouvelles en bref, d'abord la campagne de vaccination contre la polio lancée jeudi dernier au Katanga. Cette initiative de l'UNICEF, l'OMS, en partenariat avec le gouvernement congolais, a pour objectif vacciner près de 3 millions d'enfants et arrêter la circulation du poliovirus sauvage. La campagne concerne 18 zones de santé de cette province. Un accord relatif à l'axe routier Sakema-Sisi-Walikale au Nord Kivu vient d'être signé par l'UNOPS et les Pays-Bas. Le projet qui s'achèvera en 2014 consistera en la réhabilitation et la réouverture de certains tronçons routiers, sans oublier des interventions d'urgence sur les passages difficiles, notant que les arbres seront plantés le long des routes pour lutter contre l'érosion. Le coût total de ce projet, d'après l'UNOPS, est estimé à 5 millions de dollars américains. Parlons enfin de la restitution mercredi dernier de principales conclusions des travaux de la conférence des Nations Unies pour le développement durable Rio+1 par la délégation congolaise ayant participé à ce forum. Cette restitution a été organisée par le gouvernement en partenariat avec le programme des Nations Unies de développement. D'après les membres de la délégation congolaise, plus de 700 engagements concrets ont été pris lors de cette conférence avec des promesses de financement évaluées à plus de 500 milliards de dollars américains. Voilà tout pour les nouvelles en bref.
Magazine des Nations Unies.
Le monde a célébré le 11 juillet dernier la Journée internationale de la population sous le thème « L'accès universel à la santé procréative ». À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé les États membres à se concerter et à agir rapidement. L'objectif est de réduire l'écart qui existe entre la demande et la fourniture de soins de santé procréative. En République démocratique du Congo, c'est plutôt sous le thème « L'accès universel aux services de planification familiale » que cette journée a été célébrée. Le FUNUAP RDC a justement organisé une campagne de sensibilisation à la planification familiale. À ce sujet, le chargé du programme de planning familial au Fonds des Nations Unies pour la population s'entretient avec Honoré Missinga. Théophile Némoindjare Mwabukongo est notre invité.
Docteur Théophile Némoindjare Mwabukongo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Depuis plus de 20 ans, la communauté internationale célèbre le 11 juillet de chaque année la journée de la population. Quelle est la particularité de cette journée en 2012?
La particularité en 2012, c'est que le thème de cette année s'est centré sur l'accès universel à la santé procréative. Et pour nous, en RDC, on a voulu se focaliser sur l'accès universel au service de planification familiale.
Et par rapport à cette journée, est-ce que le Fonds des Nations Unies pour la population en RDC a organisé des actions?
Bien sûr, on a organisé beaucoup d'actions. D'abord, nous avons commencé par élaborer une brochure pour pouvoir donner l'information au grand public. brochure sur l'accès universel à la planification familiale. Nous avons briefé le professionnel des médias pour leur donner un peu d'informations ce qui concerne la journée. Et puis, on a aussi briefé les accoucheuses qui doivent faire la campagne, puisque la campagne a débuté une semaine avant, c'est que mardi le 3 juillet. Et aussi, nous avons utilisé ces accoucheuses pour aller sur le terrain, pour offrir les services en droit gratuitement. Sensibiliser les gens, les orienter vers les structures de nos trois zones de santé, puisqu'il y a à peu près 40 structures qui sont impliquées pour l'offre des services gratuits de planification familiale qui en auront besoin. C'est les femmes qui vont se présenter là-bas. Donc, pour ceux qui ont besoin de pouvoir espacer les naissances ou de retarder une grossesse, ou qui ne veulent plus concevoir, on les oriente vers les services. Et là, on trouve des professionnels, qui sont aussi des Congolais, qui parlent de langue nationale, qui peuvent facilement expliquer aux femmes ce qu'elles veulent, et puis elles vont faire librement les choix.
Puisque vous parlez des accoucheuses, selon le Fonds des Nations Unies pour la population, RDC, le pays fait face à une pénurie d'accoucheurs. Il faut une moyenne de 14 000 sages femmes pour assurer des accouchements sans danger sur toute l'étendue de la RDC. Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre agence à ce propos?
Oui, c'est vrai que pour réduire la mortalité maternelle, il faut vraiment avoir des accoucheuses qui assistent les femmes qui viennent pour mettre au monde. Et par rapport à ça, pour répondre aux besoins du pays, à avoir des ressources humaines qualifiées, surtout les accoucheuses, nous apportons l'appui au gouvernement pour assurer la formation des accoucheuses. Notamment, nous équipons les salles techniques avec des matériels techniques appropriés, plus que ces matériels informatiques. Et nous renforçons les capacités des encadreurs des sites de stage. Et puis, nous sommes en train d'appuyer le processus de révision des curricula pour la formation des accoucheuses en partenariat avec l'OMS. Je crois que ce sont les actions principales qui sont menées avec le pays pour pouvoir disposer des ressources humaines qualifiées, en tout cas les accoucheuses. Bon, aujourd'hui, vous savez qu'il y a pénurie, puisque nous avons, sur toute l'étendue du pays, 4075 accoucheuses qualifiées. Ça pose vraiment des problèmes de pouvoir répondre aux besoins des 515 zones de santé.
Docteur Théophile Namwanjare, quels sont les pesanteurs sur la planification familiale en RDC?
Les pesanteurs sont nombreuses. Hein. Il y a d'abord l'ignorance. Beaucoup de gens ne connaissent pas les services. Il y a aussi le problème de l'offre, puisqu'il y a très peu de structures de santé qui offrent la planification familiale. Il y a d'autres barrières, par exemple, les intérêts relatifs à la religion ou à la culture. En tout cas, ce sont les principales barrières que les femmes rencontrent pour utiliser les services de planification familiale.
Et comment y remédier?
Bon, pour y remédier, certaines barrières exigent des actions de plaidoyer, d'autres il faut sensibiliser la population. Il y a des actions de mobilisation sociale en impliquant les associations communautaires. Il y a aussi le personnel de santé qui doit jouer un grand rôle avec la communication interpersonnelle. Il y a aussi les médias comme celle-là qui doivent aussi sensibiliser la population pour donner la vraie information. Parce que beaucoup de gens n'ont pas l'information, parfois ils craignent les effets secondaires avec la fausse perception. Mais si on donne la vraie information, la personne peut maintenant choisir en connaissance des causes. Je crois que c'est tous ces facteurs-là qu'il faut vraiment combiner pour arriver à créer vraiment la demande des services de planification familiale.
Il y a deux ans, le Fonds des Nations Unies pour la population RDC avait pris l'engagement de soutenir le gouvernement congolais pour le recensement général de la population. Où en est-on?
En fait, les choses évoluent bien en ce qui concerne le recensement général de la population. Je crois qu'en 2009, il y a un décret qui a été pris par le Premier ministre pour créer le bureau central de recensement. Et maintenant, on venait de nommer le coordonnateur du bureau central de recensement. Je crois que c'était en mois de mars 2012. Entre-temps, on travaille avec certains partenaires comme la Banque mondiale, la BAD et Afristat pour pouvoir renforcer les capacités de pouvoir faire le recensement de l'INES, donc l'Institut national de la statistique. Maintenant, on continue à faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Je crois que la Banque mondiale a promis de pouvoir mettre à disposition du pays à peu près 6 millions de dollars. Et nous nous engageons pour notre prochain programme 2013-2017 à mettre à disposition du gouvernement 13 millions de dollars, mais il faut au moins 142 millions de dollars pour faire le recensement. Et le plaidoyer continue. Je crois que le gouvernement a déjà pris conscience des problèmes pour aussi affecter les ressources d'autres partenaires, dont des FID, certains d'autres qui ne sont pas ici, mettre aussi le moyen pour qu'on puisse faire vraiment le recensement.
Docteur Théophile Namwanjare, merci.
Je vous remercie beaucoup.
Pour la nouvelle en province de ce dimanche, nous allons en province orientale. Le verdict rendu mardi dernier par la Cour pénale internationale dans l'affaire Thomas Lubanga suscite des réactions en Ituri. Cet ancien chef de milice congolais reconnu coupable de crimes de guerre dans le nord-est de la République démocratique du Congo est condamné à 14 ans de prison par la CPI. Ce verdict prononcé par la chambre de première instance de la Cour pénale internationale contre Thomas Lubanga Dihilo entraîne des réactions. réactions mitigées, comme l'explique Jean-Paul Bassila dans ce reportage.
L'UPC considère ces jugements comme la défaite de l'ancien procureur de la CPI, Luis Moreno Campo. John Tinanzabo, son président, ad intérim, compte encore sur l'appel pour voir son camarade du parti totalement disculpé.
Le procureur avait requis 30 ans et les juges a divisé pratiquement par deux. Les juges n'ont pas voulu basculer dans les sentiments du procureur. Nous voulons disculper totalement M. Touba Lubanga. Nous sommes réconfortés dans notre demande pour aller à l'appel et demander tout simplement qu'il soit acquitté.
La société civile de l'Ituri déclare prendre à acte et respecter la décision de la Chambre des premières instances de la CPI. Jean Bosco Lalo, son président, interpelle la Cour à s'intéresser aussi aux Congolais auteurs des crimes graves de sa compétence commis notamment dans les deux Kivus.
Je dis c'est vrai, les EP vont acclamer que Touba Lubanga a été condamné. Au Nord Kivu, il y a beaucoup de mouvements, des rebelles, avec des noms divers, comme Chinja Chinja, Kata Kata. Ce ne sont pas des gens de pouvoir. Et quand il faut la guerre, il y a des crimes de guerre qui se commettent. Aucune personne du Nord Kivu n'a été inquiétée, même interpellée à la CPI.
Rappelons que la peine prononcée contre Touba Lubanga intervient environ 4 mois après qu'il soit reconnu coupable des crimes de guerre consistant à avoir procédé à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement à des utilités en Ituri. Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Retenez que ce verdict rendu par la CPI dans l'affaire Touba Lubanga est une première condamnation de la Cour pénale internationale depuis sa création. Paul Madidi, chargé de communication de la CPI à Kinshasa, nous donne des précisions sur cette condamnation.
De cette peine, il faut déduire les années de détention qu'il a déjà accomplies à la Cour pénale internationale. Monsieur Touba Lubanga avait été remis à la Cour depuis le 16 mars 2006, donc c'est 6 ans. Certes, le procureur a demandé 30 ans, mais les juges, dans leur indépendance, en prenant en compte non seulement les éléments de preuve de la part du procureur, mais également les éléments qu'ont présentés les avocats de Monsieur Touba Lubanga. Ils ont notamment pris en compte le degré de participation de Monsieur Touba Lubanga, le degré d'intention, des circonstances de temps, etc. Ils en ont tiré la conclusion que 14 ans étaient suffisants pour Monsieur Touba Lubanga.
Magazine des Nations Unies. Portée visible.
Je m'appelle Monsieur Yuluka Bamba Alphonse. Je suis marié, père de 8 enfants. J'ai fait les sciences biochimie. Ensuite, j'ai étudié à l'IBTP. Puis après, j'ai fait le management. Ensuite, j'ai suivi plusieurs autres formations en langue, notamment la langue anglaise, l'espagnol, le portugais, l'allemand, et maintenant le chinois, l'arabe, le russe. Et quant à mes fonctions actuelles, je suis traducteur au sein de la MONUSCO. C'est depuis 10 ans que je travaille ici. Auparavant, j'ai servi également comme traducteur-interprète dans plusieurs autres organisations. J'ai travaillé aussi pour le droit de l'homme du PNUD. J'ai servi comme interprète en consécutif et en simultané dans plusieurs forums, y compris des sommets des chefs d'État ici en RDC et dans d'autres pays. Et quant aux défis que je rencontre dans mon travail, le domaine de traducteur-interprète est peu connu ici en RDC. Et concernant la MONUSCO, si j'ai un souhait à formuler, c'est de voir que le traducteur soit bien outillé pour pouvoir remplir sa mission. Par exemple, de lexique avec les terminologies des Nations Unies. Voilà ce que je voudrais. Donc, au-delà de la mission ici aux Nations Unis, un jour, je voudrais vraiment me consacrer entièrement à l'éducation de la jeunesse et particulièrement des enfants dès leur bas âge.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Bonjour, je suis Karine Boyo, étudiante à l'IBTP. Nous voyons plusieurs agences onusiennes intervenir dans des problèmes qui touchent les différentes couches de la population. Par exemple, l'UNICEF pour les enfants, le HCR pour les réfugiés et autres. mais le pays fait souvent face à des conflits fonciers alors que l'ONU Habitat existe. Alors, ma question est de savoir si les conflits fonciers peuvent être aussi résolus par l'ONU Habitat. Ou carrément, quel est le rôle de cette agence onusienne?
Merci Karine Boyo. Un fonctionnaire de l'ONU Habitat vous répond. Il s'agit de Corneille Kanene, il est coordonnateur national du programme Habitat.
Oui, mademoiselle Mboyo, merci pour la question. Je dois dire que c'est depuis plus ou moins 14 ans que l'ONU Habitat travaille, je dois dire, à travers des sujets tout à fait variés, mais qui sont toujours en rapport avec les établissements humains. Et les établissements humains qu'on est à faux ou à raison, que nous appelons habitat. Et c'est un mot globalisant, le mot habitat. Et dans notre mandat, à RDC, nous sommes d'abord orientés vers le développement urbain, je dis bien le développement urbain, mais aussi sur le foncier. Et votre question est en rapport avec les fonciers. La première mission d'ONU Habitat, et quand vous regardez le logo d'ONU Habitat, on s'est écrit ONU Habitat pour un meilleur avenir urbain. Donc ça signifie c'est avant tout le développement urbain. Et le développement urbain, ça porte d'abord sur la ville. Donc ça concerne le développement des villes. Dans le secteur de développement urbain, nous avons aidé la ville de Goma au lendemain de l'éruption volcanique, disons d'un plan d'urbanisme directeur. Dernièrement, nous avons fait le plan de développement urbain pour Kisangani et aussi le plan de développement urbain pour la ville est de Kinshasa. Maintenant, pour revenir sur notre deuxième mandat, qui est le mandat foncier, nous avons depuis 2009 développé tout un programme. Un programme beaucoup plus pour la partie est de la RDC et confronté à des guerres que nous connaissons. Quand il y a un conflit foncier, ça peut être quelqu'un qui était là, il avait sa parcelle, il avait son champ. Il s'est déplacé pour des raisons que nous connaissons, nous sommes à l'est de la RDC, mais quand il revient, quelqu'un d'autre a occupé sa concession, a occupé sa terre. Cette personne-là vient vers nous dans les centres de médiation et nous partons identifier les conflits et les documentons et nous déployons quelques mécanismes, nous disons, pour beaucoup, c'est beaucoup plus de conciliation. Nous ne sommes pas un tribunal. Nous voulons simplement chercher la paix, rétablir la paix. Une fois, les deux parties se sont mises en accord et nous les aidons pour leur dire, bon voilà, bon, il faudrait qu'on puisse bien borner la concession de tout un chacun. Soit si on doit le morceler, on les aide aussi à ce que chacun puisse avoir une partie, disons, d'une concession. Et après, on leur dit qu'il faut aller vers le service habilité de l'État pour obtenir les titres adéquats. Et nous les accompagnons pour l'obtention de ces titres-là.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Cap.
Un premier rendez-vous à noter, c'est la remise le 17 juillet prochain d'un bloc de deux classes réhabilité à l'Institut de Kimvula Kitambo. Nous sommes à Kinshasa par le contingent ghanéen de la MONUSCO, ceci dans le cadre du projet QUIPS. Et puis sachez que du 19 au 21 juillet, un atelier national sur la réforme foncière est prévu à Kinshasa, la capitale. Ce forum, organisé avec le soutien technique et financier de l'ONU Habitat RDC, va réunir environ deux participants venus de toutes les provinces du pays. Des chefs coutumiers considérés comme des chefs de terre naturels seront parmi les participants, en plus notamment des représentants de la société civile et de l'administration des affaires foncières au niveau provincial et national. Et bien voilà, ainsi s'achève ce numéro de votre magazine, une édition coordonnée par Jean-Pierre Elali. Honoré Missenga était au reportage sous la supervision de Nicole Ngaka Madidi. Mireille Boukassa Moukindi vous l'a présenté. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine.